Place Info.
Marine Le Pen contre Emmanuel Macron sur l'immigration, Jean-Luc Mélenchon contre Nicole Belloubet sur l'indépendance de la justice et Cédric Villani contre Benjamin Griveaux pour la mairie à Paris. Série de duels politiques en ce dimanche. Et pour départager nos belligérants, les informer du dimanche avec Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
François Ehrenwein, est-ce que je le prononce bien ?
Parfait.
Journaliste à La Croix. Arnaud Stéphan, communicant, ancien conseiller de Marion Maréchal Le Pen. Vous avez travaillé à L'Incorrect. David Bouhery de France TV Info. Bonsoir. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, la télé, canal 27 de la TNT. Et dans l'agenda de Marine Le Pen, quatre dates marquées d'une pierre blanche entre mars 2020 et avril 2022, la présidente du Rassemblement national qui tenait son meeting de rentrée à Fréjus. Écoutez.
Dans les 18 prochains mois, trois rendez-vous attendent les Français. Trois rendez-vous électoraux locaux qui seront l'occasion de parachever la grande recomposition politique municipale dans exactement 6 mois et un an après, régionale et départementale. Ces trois rendez-vous, et même quatre d'ailleurs, si l'on rajoute les sénatoriales, peuvent, soyez-en persuadés, mes amis, bouleverser la donne politique.
David Bouhery de France TV Info, donc elle évoque un municipal, régional, de France Télévision, carrément. Pardon, municipal, régional, départemental, sénatorial, s'appelle le 4 à la suite dans Question pour un champion, c'est sur France TV.
Oui.
Blague à part, est-ce que ce sont des modes de scrutin qui réussissent au Rassemblement national, enfin au Front national, puisque...
Oui, mais on comprend surtout que dans tout ce qu'elle a dit cet après-midi pour sa rentrée politique, elle parle indirectement surtout de 2022, enfin de la présidentielle. Donc en fait, si je comprends bien l'énumération, le cinquième rendez-vous.
Ce sont des rendez-vous un peu, disons, secondaires, ce qui se passe d'ici à 2022 ?
Non, elle est forcément dans une logique de se dire il faut marquer des points à chacune des étapes pour espérer arriver en force en 2022. Mais enfin, c'était quand même un discours qui était essentiellement tourné sur la prochaine présidentielle. Enfin, c'est ce que j'ai compris, en tout cas.
Vous en convenez, François ?
À mon avis, elle ne peut pas fonder des espoirs démesurés lors de ces élections locales ou régionales. Son horizon, c'est la présidentielle. D'ailleurs, elle en parle chaque fois qu'elle est interpellée sur cette question, elle dit des choses, que si Agnès serait peut-être un peu trop jeune pour être candidate en...
Elle aurait glissé ça à des journalistes hier à Fréjus.
Voilà. Donc, on voit bien que l'inconscient est structuré comme un langage, on voit bien que l'horizon, c'est la présidentielle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de stratégie pour les élections intermédiaires, et si on parle des municipales tout à l'heure, on verra que... Par rapport à l'ambition initiale qui était aux dernières municipales d'avoir des candidats quasiment partout, de présenter des gens dans toutes les mairies, dans toutes les communes de France et de Navarre, là elle réduit la voilure et sa stratégie, elle l'a dit explicitement à Fréjus, c'est d'assurer un ancrage là où le Rassemblement national est fort. Cette stratégie est cohérente compte tenu des moyens du parti, ses possibilités, etc. Ça fait sens.
Elle a recueilli d'ailleurs plus de 40% dans 193 communes, Marine Le Pen aux européennes. Arnaud Stéphan, communicant qui connaissait bien ce parti, est-ce que cela veut dire que mathématiquement 193 villes sont prônables pour Marine Le Pen ?
Alors on gardera en mémoire qu'il y avait eu une liste aussi qui était sortie avant les législatives avec les 250 circonscriptions qui étaient prônables par le Front National et résultat des courses, il y en avait eu 6. Et dont un qui est parti je crois en plus entre-temps. Mmh. Donc je crois que c'était resserré très largement. Il y a une stratégie, il y a une montée en puissance qui est nécessaire parce que vous avez besoin de faire du storytelling. Là c'est le communicant qui parle, vous avez besoin de raconter une histoire à vos cadres. Si vous leur dites le rendez-vous on se voit en 2022, vous démobilisez vos troupes. Si vous n'expliquez pas que c'est toute une montée en puissance et que on est là et qu'on a récupéré après cette élection ratée, on va dire, de 2017, vous n'arriverez pas à tenir vos troupes. En plus, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de refaire des scores, et il y aura des scores. Mais la mère de toutes les batailles, ça, parce que ça a toujours été comme ça au Front National, et ça sera la même chose au Rassemblement National, c'est l'élection présidentielle. Mais maintenant, on essaye de mettre peut-être un peu plus l'écho sur des élections intermédiaires, on va dire, dans la stratégie du Rassemblement National, parce qu'on a besoin d'avoir des marqueurs. Avoir des mairies, c'est important. Ça veut dire on est capable de gérer des exécutifs. Éventuellement faire les faiseurs de rois dans des départements, parce que la disparition des LR... presque, enfin, évidemment, rebattre les cartes.
Et sur les mairies, on entendra d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'un des arguments, hein, la gestion municipale. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, Céline Pic d'Oser le Féminisme, c'est de la com, ce que fait Marine Le Pen.
Oui, puis il y a un discours de banalisation de son discours, avec un discours très consensuel, un peu de rassemblement. Il faut rappeler quand même que, à Oser le Féminisme, nous, on s'est largement opposé, entre les deux tours à l'élection de Marine Le Pen, pour rappeler que derrière un discours assez lisse, on a vraiment des reculs systématiques sur les droits des femmes quand l'extrême droite ou la droite extrême avance, et ça c'est extrêmement inquiétant.
Et pourtant, c'est l'un des arguments de Marine Le Pen, c'est de dire, lorsque nous sommes à la tête des mairies, ça fonctionne. On va l'entendre et je vous fais réagir juste après.
Notre vision municipale s'appuie sur un socle de valeurs. Elle s'accompagnera des projets municipaux localisés qui intégreront les priorités qui sont évidemment les nôtres, la sécurité dont la dégradation s'accélère et se généralise, le refus de toute immigration supplémentaire, le localisme et l'écologie, une gestion rigoureuse et la baisse réelle des impôts, le contrôle et l'évaluation de la dépense publique, le développement local, la démocratie de proximité. Ces programmes, nos maires les ont mis en œuvre durant cette mandature. Nos maires ont montré que la gestion par des maires RN, ça fonctionne.
Céline Pic, ce qu'elle dit est vrai, ça fonctionne. Vous pouvez pas être d'accord.
Non. Je ne suis pas d'accord. Je pense en particulier, alors c'est pas, il appartient pas exactement au Rassemblement National, mais on parle de la droite extrême, de Robert Ménard en particulier, dont contre lequel nous sommes en procès, avec un collectif d'associations féministes pour avoir lancé des campagnes de communication qui faisaient de l'humour sur les féminicides, cause sur laquelle on est fortement mobilisé. On voit qu'il y a des stratégies. Il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau des municipalités en termes de droits des femmes, et en termes de, quand on entend parler de la sécurité. Moi, j'aimerais bien qu'on parle, par exemple, du harcèlement de rue, mais c'est certainement pas avec ce discours sécuritaire qu'on résoudra le problème, puisqu'on sait très bien que, par exemple, les violences faites contre les femmes, c'est des violences faites par Monsieur Tout-le-Monde, et non pas contre des populations immigrées, comme elle semble à chaque fois, bien sûr, le souligner.
Et Béziers ne faisait pas partie des villes, hein, je crois qu'elle a cité pendant son discours.
Mais on poursuit le débat. C'est pour ça que je dis la droite extrême.
20h10 sur France Info, on poursuit le débat juste après le rappel de l'information avec vous, Léo Téchère.
Les bureaux de vote ont fermé tout à l'heure en Tunisie. Faible participation au premier tour de la présidentielle. Elle n'était que de 30% en milieu d'après-midi. Premières estimations des résultats cette nuit. Scrutin à suspense. 26 candidats étaient en lice. En Algérie voisine, le président par intérim est en train de proposer là aussi une date d'élection présidentielle. Abdelkader Ben Salah s'exprime en ce moment à la télé. Des centaines de milliers d'Algériens ne veulent pourtant pas d'élection organisée par les héritiers d'Abdelaziz Bouteflika. Patrick Balkany en prison, Jean-Luc Mélenchon bientôt jugé, procès politique, crie le leader de la France insoumise. La garde des Sceaux dénonce des propos inacceptables. Nicole Belloubet réfute toute instrumentalisation de la justice. 82 migrants débarqués la nuit dernière en Italie. L'Ocean Viking se prépare à retourner désormais en mer. Le bateau d'SOS Méditerranée repart en mission de sauvetage au large de la Libye. Le Slovène Primoz Roglic remporte la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui vient d'arriver et de se terminer donc à Madrid. Un Français enfile le maillot à pois bleu du meilleur grimpeur, l'Isérois Geoffrey Bouchard, dont c'était le premier grand tour, un coureur d'AG2R à la mondiale. Et puis l'équipe de France, finalement médaillée de bronze ce matin aux mondiaux de basket. Les Bleus ont battu l'Australie dans la petite finale, 67-59. Et cet après-midi, c'est l'Espagne qui a décroché l'or en battant l'Argentine 95-75.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Un projet, un bilan. Marine Le Pen compte vanter la gestion municipale des villes Rassemblement National pour convaincre les électeurs. Arnaud Stéphan, est-ce qu'il y a une marque de fabrique RN dans les mairies ?
C'est très difficile à dire, puisque la plupart des élus qui avaient été élus avec l'étiquette Front National dans le passé, et puis RN, beaucoup sont partis. Je connais un cas très particulier qui est celui de Marc-Étienne Lansade à Cogolin, qui finalement n'est pas resté non plus au Rassemblement National, et pourtant il a une gestion plutôt saine. Puisque
c'est-à-dire il suffit pas de garder les villes, il faut les garder en fait.
Mais d'ailleurs il y a une phrase très intéressante dans ce qu'a dit Marine Le Pen, si elle le reconnaît déjà, elle dit on va privilégier plus la qualité que la quantité. Mais quand on dit ça veut dire qu'on a une quantité de qualité qui est relativement moindre.
Faut vous suivre, Arnaud Stéphan. Ni droite ni gauche, c'est ce qu'elle dit aussi, Marine Le Pen, elle n'en demeure pas. Elle dit que les étiquettes partisanes sont ringardes et disons que le timing n'est peut-être pas fortuit, écoutez.
Nous entendons beaucoup parler d'union avec la droite. Mais nous voulons-nous aller vers la fraternelle ambition de l'union nationale? L'union nationale avec un projet d'unité nationale. Et après tout, quoi de plus normal pour des nationaux? Les étiquettes partisanes sont un peu réductrices. Tous les Français, d'où qu'ils viennent, ont vocation à nous rejoindre et à participer au combat pour le redressement de la France.
François Erlenwein de la Croix, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit totalement un hasard à 15 jours de la rentrée de Marion Maréchal Le Pen,
qui elle peut faire l'union des droites? Évidemment, il y a cette compétition, mais c'est intéressant quand on regarde l'implantation locale du Front National sur le territoire national. On voit bien que ces places fortes conduisent à imaginer que la campagne municipale qui va venir va être difficile à tenir sur le plan programmatique. On ne dit pas exactement les mêmes choses dans les communes du nord de la France et quand on s'adresse à l'arc méditerranéen dans le sud. Il y a une tension véritable entre l'électorat du sud du Front National et l'électorat du nord. Leurs demandes, leurs exigences politiques ne sont pas totalement les mêmes. Et donc, elle navigue entre ces deux pôles.
Ces deux pôles irréconciliables.
Et ni droite ni gauche, c'est une manière de dire je n'irai pas sur la ligne politique qui est traditionnellement celle du Front National. J'ai inventé quelque chose ces 4 ou 5 dernières années et j'essaye de tenir entre ces deux pôles. Parce que Marion Maréchal, elle incarne un rassemblement national ou une ligne beaucoup plus fidèle à Jean-Marie Le Pen que celle de Marine Le Pen.
David Boiry.
En plus, dans les municipales, il y a un autre élément qui complique la lecture, parce que vous parliez du bilan municipal. On a tous remarqué que cette réunion de rentrée se faisait à Fréjus.
La ville où est élu David Rachine, élu du Rassemblement National.
Voilà. Et en fait, quand on regarde le bilan à Fréjus, il est beaucoup plus sur la continuité que sur la rupture. Parce que si on met de côté les coups d'éclat qui ont été faits en début de mandat sur la gestion locale, les principaux reproches aujourd'hui de l'opposition à Fréjus, c'est plus sur le fait de continuer à bétonner la côte pour des questions de dette municipale, et qui était quelque chose que les prédécesseurs de la LR avaient déjà mis en place. Donc c'est beaucoup plus une continuité dans la gestion municipale que une vraie rupture dans la gestion quotidienne.
Mais la consigne a été donnée au prochain candidat du Rassemblement National au municipal de ne pas polariser leur gestion, c'est-à-dire de ne pas faire de la provocation comme ça a pu être le cas dans un certain nombre de communes, mais d'essayer de fabriquer une forme de consensus autour de leur gestion municipale. D'ailleurs, c'est l'une des illusions que les adversaires du Front National devront abandonner. C'est-à-dire, quand le Front National prend des villes, ça ne tourne pas systématiquement et mécaniquement à la catastrophe. Il y a de l'habileté dans leur gestion sur la question sécuritaire. Ils obtiennent de l'adhésion citoyenne. Donc, il faut se poser un certain nombre de questions quand, par facilité, on dit « laissez-on y arriver et puis, de toute façon, ça s'effondrera comme un flan ». Objectivement, on peut pas dire que la gestion municipale des maires d'extrême droite a provoqué... Ça n'a pas provoqué les catastrophes annoncées par certains.
Dit, on peut lire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça n'a pas conduit à des désastres, parce que précisément ça a été une politique semblable aux autres politiques locales.
Je peux être d'accord. Ce qui m'a intéressé sur le discours, c'est qu'on a tendance toujours à mettre une grosse charge symbolique sur une déclaration comme ça de rentrée, en disant ça y est, c'est la feuille de route, etc. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'assister à une leçon de marketing politique. Pourquoi? Parce que on nous a expliqué que dorénavant, c'était la verdure, c'était le bien-être, on allait mettre des huiles essentielles dans les rues gérées par le
Rassemblement. Le localisme, dit Marine Le Pen.
Oui, mais le localisme, c'est un vieux truc. J'ai fait des notes sur le localisme. Je sais de quoi te parle. Mais
quelle différence avec le terroir, d'ailleurs? Quelle est la différence entre localisme et terroir? Parce qu'on comprend pas très
très bien ce changement sémantique.
Le terroir, ça peut être l'appartenance à certaines coutumes, à une identité alimentaire, etc. Là, sur le localisme, c'est-à-dire
c'est
qu'on
le
va,
lieu.
Exactement, c'est le lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen cet après-midi a développé énormément d'éléments qui peuvent nous faire penser qu'il y a une redirection vers la subsidiarité, c'est-à-dire tout d'un coup justement les villes vont être plus attachées à leur département, et ce qui justement pourrait peut-être corriger cette différence qu'il y a entre ce qu'on a appelé Front National du Nord et Front National du Sud quand il y avait la campagne aux dernières régionales entre Marine Le Pen dans le Nord et Marion Maréchal en PACA.
Oui, cela dit, elle parle quand même de démétropolisation. Et quand elle emploie ce mot, elle tente de reprendre à son compte les revendications des Gilets jaunes sur la France rurale abandonnée, etc.
Et de sa nièce, il y a 3 semaines sur
LCI. Elle utilise ça politiquement. Alors, le contenu est très vague. S'il s'agit de mettre les villes à la campagne, d'autres y ont pensé avant elle.
Vous avez évoqué les thèmes qui étaient présents dans son discours. Il y a aussi les thèmes qui étaient absents sur la question de la bioéthique, de la PMA. C'est d'ailleurs, je crois, la une de la Croix demain sur la loi bioéthique.
Oui, tout à fait. Demain, on évoque le débat déjà engagé à l'Assemblée nationale et la position de l'Église sur cette question, plutôt réservée sur l'extension de la PMA. Et avec un point de vue fort exprimé d'ailleurs dans l'éditorial, il faut continuer à débattre, même pendant la discussion parlementaire, et il faut que l'ensemble des points de vue sur cette question, contrastés dans la société française, puissent être entendus.
Elle a précisé qu'elle n'irait pas manifester.
Oui,
c'est assez limpide que je souhaitais poser cette question. Elle ne s'adresse pas à l'électorat conservateur. Est-ce qu'elle a tort sur le diagnostic ?
Je ne sais pas si elle a tort sur le diagnostic, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui l'attendent sur la PMA. Je pensais effectivement qu'elle ferait une déclaration vers cet électorat extrêmement conservateur qui est opposé à la PMA juste pour des raisons profondément misogynes, puisque c'est une discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Et l'ouverture de la PMA, nous, ça fait 7 ans qu'on l'attend. Et clairement, il y a cette crainte que Macron puisse ouvrir le débat avec les conservateurs, surtout on en reparlera un peu plus tard par rapport aux déclarations qu'il a faites récemment sur vraiment d'ouvrir son discours vers la droite, et ça nous inquiète.
Ça grimace sur le plateau, mais on entendra les autres réponses après le rappel de l'info. 20h20, Léo Téchère sur France Info.
C'est leur élément de le langage, l'acte 2 du quinquennat à partir de demain. Information France Info, Emmanuel Macron réunit son gouvernement et tous les députés et sénateurs de la majorité, plus de 400 personnes à 18h30 au ministère des Relations avec le Parlement. Il y sera question de la réforme des retraites et de l'immigration. Une marche silencieuse pour Zineb Redouane aujourd'hui à Marseille, une octogénaire décédée en décembre dernier, victime de violences policières selon les plus de 500 manifestants. Zineb Redouane touchée par un tir de grenade lacrymogène à sa fenêtre en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Les prix de l'essence vont-ils encore flamber ? L'Arabie Saoudite forcée de réduire de moitié sa production de pétrole. Deux installations attaquées par des drones rebelles yéménites hier. La compagnie Aramco espère toutefois rétablir un tiers de sa production interrompue pour l'ouverture des marchés demain. Aux États-Unis, les employés de General Motors appelés à la grève à partir de minuit, 46 000 salariés qui pourraient donc peser sur les négociations pour une nouvelle convention collective. Un match de foot fou cet après-midi en Ligue 1. Saint-Etienne menait 2-0 par Toulouse avant d'égaliser. Deux autres buts même refusés pour les Verts par l'assistance vidéo. Nantes a également battu Rennes 1-0. Et ce soir à 21h, Monaco reçoit Marseille. Enfin, la France continue sa promenade de santé en phase de groupe de son Euro de volleyball à domicile. Troisième match et troisième victoire contre la Grèce. Et toujours sur le score de 3-7-0.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neil Alatrousse.
Marine Le Pen qui n'ira pas manifester le 6 octobre aux côtés des anti-PMA pour toutes. C'est une question sensible, c'est à la société de la trancher par référendum. Céline Pic d'Oser le Féminisme, elle prend très nettement ses distances avec Marion Maréchal Le Pen sur ce point. Et vous nous disiez être contre la PMA pour toutes, c'est misogyne.
C'est totalement misogyne puisque c'est une discrimination lesbophobe, c'est-à-dire qu'on interdit à l'accès à d'une technique médicale, qui est la fécondation in vitro, à des femmes selon l'orientation sexuelle. Si vous êtes hétérosexuel, vous y avez droit. Si vous êtes homosexuel, vous n'y avez pas droit. Et c'est pour ça que depuis le début, on dit même que ça devrait même pas relever de l'exercice de la bioéthique, mais vraiment d'une question d'égalité. Il y a une rupture d'égalité qu'il faut absolument combler. C'est une promesse. C'était une promesse du président Hollande. C'est une promesse du président Macron aujourd'hui, et on est vraiment très très attentive à Oser le féminisme pour que cette loi soit votée rapidement. Et quand on dit il faut entendre toutes les parties, moi j'ai entendu beaucoup l'église, excusez-moi de vous le dire, et peu les lesbiennes, et là les lesbiennes sont très peu représentées aujourd'hui dans les médias pour rappeler aujourd'hui l'enfer que c'est aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand
D'aller à l'étranger pour bénéficier de cette PMA.
C'est-à-dire que quand Marine Le Pen appelle à un référendum sur la question, pour vous il en est hors de question?
Il est hors de question, ça fait 7 ans qu'on a des débats là-dessus, il y a eu un certain nombre de consultations, en particulier le Conseil national d'éthique, il y a eu les assemblées, les états généraux de la bioéthique qui ont été organisés, il y a eu le HCE, le Haut Comité à l'égalité, il y a eu le Défenseur des droits qui s'est prononcé. Toutes les instances se sont déjà prononcées pour la PMA et pour l'ouverture de la PMA. C'est une promesse du président Macron. On n'est plus du tout dans la discussion, on est là maintenant dans le vote. Il faut que le vote intervienne très très rapidement pour arrêter de donner une tribune à des gens qui ont des propos ouvertement lesbophobes contre les femmes lesbiennes.
Et je sens que François Hollande n'est pas d'accord.
Dans l'hostilité à la PMA ne s'exprime pas que l'hostilité aux couples homosexuels. C'est pas du tout la question. La PMA pose des questions dans sa logique sur la filiation, etc. Et ces questions-là doivent pouvoir être débattues même quand le texte est examiné à l'Assemblée nationale.
La PMA est ouverte depuis 1982 au cours
que le débat est clos.
Non, mais la question,
précisément tout à fait, dans les projets de loi, on discute.
La question de la filiation, elle a été réglée en 1982 quand on a ouvert la PMA aux couples hétérosexuels. Donc ici, le fait qu'on l'ouvre pas aux couples homosexuels, c'est juste une discrimination et ce n'est certainement pas une nouvelle question sur la filiation. Celle-ci, elle a été réglée il y a plus de 30 ans.
Et le débat sur le fond aura lieu et à l'Assemblée et dans les informés, mais pour l'instant, sur la proposition de Marine Le Pen de proposer un référendum, d'accord, de vouloir un référendum, Arnaud Stéphan, est-ce que c'est une façon pour elle de ne pas prendre position aussi sur un sujet où son parti ne parle pas forcément d'une même voix?
Marine Le Pen n'est pas à l'aise avec les thèmes, avec tout ce qui concerne le sociétal. Elle n'est pas à l'aise, c'est pas la première fois. Il y avait déjà eu des discussions très importantes au moment du mariage pour tous. Elle n'est pas à l'aise parce qu'elle se sent pas concernée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une, elle n'est pas dans une approche morale de la politique. Elle n'est pas dans une approche même confessionnelle de la politique et non plus traditionnelle. Donc elle voit plutôt des problèmes extrêmement politiques, plutôt des rapports sociaux, d'où son ancrage extrêmement qu'on a considéré extrêmement populiste, extrêmement à gauche même certains ont pu dire. Mais elle n'est pas à l'aise avec ça du tout.
Voilà. Sur son électorat d'ailleurs, elle a donné quelques signes tout à l'heure de l'électorat auquel elle souhaitait s'adresser pendant les municipales. Alors elle évoquait les gilets jaunes, mais on comprend que c'est à des électeurs qu'elle tend la main, lesquels, écoutez.
De simples citoyens, des travailleurs pauvres ou des retraités modestes, des mères célibataires ou des familles en difficulté, des artisans épuisés par l'effort fiscal ou des indépendants découragés, sont venus rappeler à nos dirigeants hors sol que la France existait au-delà des périphériques urbains. Nous pensons qu'il faut conclure la paix fiscale et engager la décrue, notamment pour les classes modestes, les classes moyennes, les indépendants et les petites entreprises.
David Bouhiri, est-ce qu'elle évoque les électorats avec lesquels elle a des difficultés, notamment les retraités? On sait qu'elle a toujours eu un peu de mal à les convaincre, Marine Le Pen.
Des difficultés, mais en même temps, quand on réécoute l'énumération, ça ressemble aussi à son électorat de la précédente présidentielle, non? Enfin, j'ai l'impression que c'était sur ces catégories-là qu'elle était parvenue à faire de très bons résultats à la présidentielle.
Elle avait quelques difficultés, je crois, avec les retraités. Il y avait cette question de l'euro qui...
Dans toutes les régions, ça avait été le cas. Dans toutes les régions, les scores avaient été vraiment très importants. Et là, on voit que la part, ce qui a permis de sauver les scores des Républicains sur énormément de régions et de territoires, c'est le vote des seniors.
Et juste dernière petite question à Céline Pic d'Oser le féminisme. Quand elle évoque les mères célibataires, est-ce que c'est un électorat qui est sensible à ses discours?
Ce qui est certain, c'est que quand on parle de précarité, ce sont majoritairement des femmes. Les smicards, ce sont majoritairement des smicardes. Et aujourd'hui, elles cumulent à lutte contre les violences au travail et précarité. Et quand elles s'adressent à elles, en fait, c'est en totale dissonance avec son absence de programme par rapport aux femmes. Elle ne s'est jamais mobilisée, par exemple, contre le harcèlement au travail, contre les violences sexistes au travail. On ne l'entend pas. Et donc, en fait, ni sur la question des pensions alimentaires impayées, 40% des pensions alimentaires sont impayées, c'est le silence radio sur le droit des femmes et sur la défense effectivement des revenus des femmes et des inégalités salariales. Elle est systématiquement absente, donc je trouve ça très opportuniste comme discours.
20h27 sur France Info. Dans quelques instants, Emmanuel Macron qui veut durtir sa politique migratoire à droite toute l'Elysée. Réponse des informés, juste après la météo et le journal. Mais d'abord, le trafic avec vous, Thomas Coignard.
Et à vous signaler un gros bouchon sur l'A12 en région parisienne, plus d'une heure pour faire 5 km entre Bois d'Arcy et Rocancourt, direction Paris, parce qu'il y a eu un accident au niveau de Bailly juste avant d'arriver sur l'A13. À noter que c'est chargé hein, en Ile-de-France, 191 km de bouchons dans la région, c'est 4 fois plus que d'habitude. Chargé aussi pour revenir à Lyon, que ce soit au nord où ça bouche entre Miribel et Vaux-en-Velin, ou au sud où c'est chargé au niveau de Fézin. Et puis compliqué aussi pour arriver à Lille depuis le nord, vous perdez en gros 25 minutes depuis Bailleul.
Merci Thomas Coignac. France Info, les prévisions météo.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Et c'est avec vous Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures vont conserver un caractère estival sur la plupart des régions, jusqu'à 32-34 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Bourgogne, le Centre, le Limousin, le Poitou-Charente, dans le Sud-Ouest et en moyenne Vallée du Rhône. Il fera 28 degrés en moyenne dans le quart Nord-Est, sur le Val-de-Loire, le bassin parisien et l'intérieur de la Bretagne, et 21 à 24 degrés plus près de la Manche. Le soleil va conserver les commandes sur une grande partie du pays en ce début de semaine, sauf le long de la Manche, où le ciel plus durablement chargé qu'au cours du week-end pourra donner quelques pluies passées la mi-journée, en particulier sur les Flandres et l'Artois. En marge, des nuages d'altitude sans conséquence vont survoler le nord de la Loire. Dans la moitié sud, surtout sur le relief, les cumulus vont devenir menaçants en donnant ponctuellement une averse, voire un orage.
Merci Jean-Michel Golinski. 20h30 sur France Info, toute l'information avec Olivia Ferrandi. Et bonsoir Olivia.
Bonsoir. Dernière soirée de révision pour les candidats au brevet. Ils seront 11 000 à passer l'examen demain et mardi. C'est 10 fois plus que l'an dernier. La raison, eh bien, vous la connaissez, hein, c'est la canicule de juin dernier qui avait conduit le ministre de l'Éducation à décaler l'examen de 2 jours fin juin en laissant la possibilité aux élèves de 3e de choisir de passer le brevet en septembre si jamais ils ne pouvaient pas début juillet. La seconde partie du quinquennat d'Emmanuel Macron se profile à l'horizon. Le président veut donc donner une nouvelle impulsion à sa majorité. Il recevra demain les députés, les sénateurs, La République En Marche, Modem et ceux du mouvement Agir. Alors de quoi parleront-ils ? Eh bien d'immigration avant le débat à l'Assemblée le 30 septembre, mais aussi de la réforme des retraites et des élections municipales à venir. Et si certains évoquent une reprise en main des parlementaires de la majorité, Saïd Hamada, député LREM des Bouches-du-Rhône, met plutôt en avant une volonté de dialogue.
Je pense que si le président de la République éprouve le besoin à un moment donné de parler avec les députés de la majorité élargie, avec nos partenaires, la moindre des choses, c'est d'être au rendez-vous et d'écouter ce qu'il va dire. Nous verrons ensuite ce que nous ferons, s'il y a des choses à faire, évidemment, mais en tout cas, quelle est la dynamique dans laquelle il souhaite engager la majorité présidentielle. Il y a des moments, j'allais dire, clés du quinquennat et de la vie politique, et là, je pense qu'on est en train d'en vivre un avec l'acte 2 du quinquennat. Il est important que le président de la République puisse dire à sa majorité comment est-ce qu'il perçoit les choses, comment est-ce qu'il les voit, et que nous puissions aussi dire quel est notre ressenti en tant que parlementaire et ce qu'on ressent du terrain et ce qui nous paraît important de mettre en place sur cette phase 2 du quinquennat.
Saïd Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. De son côté, Marine Le Pen a lancé aujourd'hui la campagne de son parti pour les municipales de l'an prochain. Discours prononcé depuis Fréjus, qui est la plus grande ville gérée aujourd'hui par le Rassemblement National. Le sac à dos d'un randonneur retrouvé aujourd'hui en Haute-Savoie, dans les gorges de la Diossaz, au nord de Bourg-Saint-Maurice. L'homme est porté disparu depuis vendredi. Les gendarmes de haute montagne descendront demain dans les gorges pour tenter de le localiser. À l'étranger, la présidentielle en Tunisie, premier tour ce dimanche. Le taux de participation s'élevait à moins de 30% en milieu d'après-midi, dans un pays où les jeunes représentent les deux tiers du corps électoral. Des jeunes souvent surdiplômés qui ne trouvent pas de travail. Le chômage des jeunes frôle les 35% en Tunisie. Les résultats définitifs de ce premier tour de la présidentielle sont attendus mardi. En pleine campagne électorale pour garder le pouvoir, Benjamin Netanyahou avait promis la semaine dernière d'annexer les colonies israéliennes de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Aujourd'hui, deux jours avant les législatives, le premier ministre de l'État hébreu a légalisé une colonie sauvage près de Jéricho, la principale ville arabe de ce secteur. Cette colonie compte un peu plus de 250 habitants. Le sport de ce dimanche, il reste un match à jouer pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 de football. Monaco face à Marseille, ce sera à partir de 20h45. A noter également que la France repart du mondial de basket avec la médaille de bronze après sa victoire dans la petite finale face à l'Argentine. À l'Australie, pardon. 20h33, Leïla Latrousse.
20h, 21h, les informés. Leïla Latrousse.
La rentrée de Marine Le Pen à Fréjus est parmi les thèmes évoqués. Ce qu'on appelle les fondamentaux, hein, l'immigration, allusion lorsqu'elle parle du projet municipal, mais surtout du débat du 30 septembre à l'Assemblée. Écoutez.
Le président de la République a décidé d'organiser un débat. Oui, c'est toujours des débats. Blablabla, 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 blablabla. On a eu le grand débat, là on va avoir les petits débats. Donc là, à l'Assemblée nationale, on va avoir un débat sur l'immigration, sans vote. Hein. Eh bien, le Rassemblement national aura 0 minute de temps de parole. C'est pas très grave. On se fera entendre autrement.
On se fera entendre autrement, dit Marine Le Pen. Hein. François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. L'Élysée ne veut pas se laisser déborder sur le sujet. En même temps, on comprend un peu la présidence de ne pas laisser ce sujet-là uniquement à la droite, au Rassemblement national, à Marine Le Pen.
Oui, alors il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles le président de la République, apparemment, en a fait un de ses sujets de préoccupation, puisqu'il réunit... beaucoup de monde demain soir pour en parler, qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. La question, me semble-t-il, c'est que je ne crois pas qu'il ait une vision très claire de ce qu'il désire sur le sujet. Quand on consulte aussi largement, on essaye de faire une synthèse des points de vue qu'on entend. Et je pense que sa démarche est celle-là. Sa préoccupation, il est ambivalent sur cette question. Son raisonnement est que la pression migratoire est un sujet préoccupant pour les pays d'Europe. Il en a fait l'expérience, d'ailleurs, dans les débats intra-européens, où là, il avait une position courageuse. Il s'est vraiment battu contre le gouvernement Salvini au moment où ce gouvernement faisait tout et n'importe quoi sur la question migratoire. Là, il a été courageux. Mais en même temps, la politique française en matière de gestion des quotas européens quand ils existaient n'a pas été exemplaire. Donc, c'est l'ambivalence qui prévaut. Et je pense que là, le président de la République est à la recherche d'une position claire et humainement acceptable sur cette question.
Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Il est ambivalent, le président, sur l'immigration, comme le dit François Ernenwein de La Croix.
Moi, je trouve que la politique migratoire de Macron est relativement déjà sévère aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas s'ils vont continuer à aller vers un virage à droite pour aller rejoindre les idées défendues par Marine Le Pen. Mais on a aujourd'hui, nous, sur le terrain, en particulier, on est très investis sur la question de la prostitution. On a aujourd'hui des femmes en prostitution qui devraient avoir des permis de séjour pour accéder à des parcours de sortie tels que la loi les définit, et il y a obstruction à la loi qui protège les femmes en prostitution et des procédures d'expulsion et des femmes en prostitution qui sont des victimes de trafic sexuel qui sont aujourd'hui expulsées du territoire français alors qu'elles devraient bénéficier de ces parcours de sortie qui leur donnent droit à un permis de séjour. Et donc nous, on est confrontés quotidiennement à une politique migratoire extrêmement sévère.
Très sévère, dit Céline Pic, la politique migratoire en Océphane.
Je sais pas, mais ce que je sais en revanche, ce que je sens en tout cas, c'est que le président de la République est quelqu'un qui a de l'intuition. Il sait que ce sujet va lui arriver dessus très rapidement et de manière extrêmement forte. Donc, il essaye de réunir les siens. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un ministre de l'Intérieur qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Gérard Collomb, et qui était quand même parti avec un discours apocalyptique. Je ne sais pas quels sont les éléments qui sont à la portée du président de la République, mais visiblement, il a eu d'abord une réunion avec le ministre de l'Intérieur actuel, Castaner, et il réunit aujourd'hui son groupe. Je pense qu'il va revenir là-dessus. Et puis, en effet, il y a aussi du marketing politique. Il faut qu'il récupère, enfin en tout cas qu'il stabilise cet électorat LR qui est venu à lui lors des élections européennes. Il a besoin de les garder et je pense que c'est un marqueur fort.
David Bouhery de France Télévisions.
Mais moi, je pense qu'il n'y a pas uniquement un calcul politique. Calcul politique dans le sens de dire il ne faut pas laisser ce sujet au seul Rassemblement National et à la droite de la droite. Donc, il faut qu'on détermine en fait une position au sein de la majorité sur ce sujet-là. Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir anticiper les crises à venir pour ne pas se retrouver pris au piège ou à contre-pied.
Les types de crises.
En fait, on évoque les réfugiés climatiques, notamment dans les années qui viennent. Voilà, et donc, il veut prendre les devants pour savoir comment articuler cette politique. Je pense qu'il y a ça vraiment dans sa tête.
Mais le président de la République est le premier à disposer des chiffres de l'OFPRA, par exemple. À mon avis, il est très informé. Il y a eu 123 000 demandes d'asile en 2018, soit 22% de plus qu'en 2017. Et donc, en bonne gestion, le président de la République, ça n'engage pas sur l'aspect humain des questions migratoires, mais il faut quand même poser la question, est-ce que toutes ces demandes d'asile sont justifiées, est-ce qu'on peut les gérer, etc. Je suis favorable, personnellement, à une politique généreuse sur la question des migrations, pas simplement par principe ou bienveillance, mais parce que la question migratoire est une question centrale dans le monde aujourd'hui et qu'on peut pas entrer dans ce débat en pensant qu'on va ériger des murs. C'est absurde. Donc, que le président de la République ait le souci de construire une politique sur un problème qui existe objectivement, je pense qu'il a raison de le faire.
Et je rajouterais juste, je pense aussi qu'il a raison de le faire pour arriver à mettre un peu plus de rationnel sur ces questions-là. Parce que, enfin, je veux dire, en règle générale, lorsque ces questions d'immigration sont abordées, c'est beaucoup plus sur le coup de l'émotion ou de la réaction plus que de choses rationnelles et réfléchies.
Du côté des associations comme du côté de ceux qui sont chargés de la répression.
Je dis des deux côtés. J'ai envie de me tourner vers Céline Pic.
On parle quand même de centaines de personnes qui meurent en Méditerranée. Rappelons que c'est aussi une crise humanitaire extrêmement grave et je pense qu'on a aussi une responsabilité extrêmement importante par rapport à ces migrants et ces migrantes qui ont des parcours en plus doublés de violences.
Quand l'Élysée parle de revoir par exemple les demandes d'asile, ça veut dire se coordonner aussi avec les partenaires européens. Est-ce que la France a les moyens d'agir seule ou est-ce qu'on est dans de l'incantation d'une certaine façon?
Mais vous posez la très bonne question. Il ne peut pas y avoir de politique migratoire nationale sur le continent européen, puisque le continent européen est l'objet, est l'Eldorado que de nombreux migrants cherchent à atteindre. À partir de ce moment-là, il n'y aura de solution aux questions migratoires et de solution juste que si une politique européenne est bâtie sur ces questions. En l'absence de politique européenne, on continuera chacun à se renvoyer les migrants d'une frontière à l'autre. On essaiera d'ériger des quotas absurdes. Je pense qu'il faut penser ça globalement au niveau européen.
Et au niveau national, la majorité veut aborder ce débat sans pudeur ni tabou. Peut-elle y arriver ? On y répond dans quelques instants. Juste après, le rappel de l'information, 20h40 sur France Info. Léo Téchère.
Marine Le Pen veut franchir des sommets jusqu'à l'Élysée. Pour cela, la présidente du Rassemblement National file la métaphore de l'escalade. Un discours devant ses militants aujourd'hui à Fréjus, dans le Var. Chaque élection est, dit-elle, un mousqueton. Le prochain sera donc celui des municipales en mars. Objectif du RN donc avant celui de la présidentielle en 2022. À propos de municipales, ce premier sondage à Paris, Anne Hidalgo profite de la division à La République En Marche. La maire socialiste sortant en tête des intentions de vote, 24% des voix devant Benjamin Griveaux, 17%, et le dissident Cédric Villani, 15% selon une IFOP, une enquête IFOP fiduciale. L'Iran conteste les accusations américaines insensées selon Téhéran. Nous ne sommes pas derrière l'attaque de sites pétroliers en Arabie Saoudite, attaque revendiquée par des rebelles yéménites. L'Arabie Saoudite, contrainte de réduire sa production de moitié, les prix du baril pourraient donc augmenter dès demain. Et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle à davantage de solidarité internationale. Il espère notamment plus d'opportunités de réinstallation pour les personnes détenues dans des conditions déplorables en Libye. Et puis l'Espagne, championne du monde de basket pour la deuxième fois de son histoire, large victoire contre l'Argentine, 95-75. La France, elle, ramène finalement la médaille de bronze après avoir battu l'Australie 67-59.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
La majorité veut aborder le débat sur l'immigration sans pudeur ni tabou. Emmanuel Macron rencontre demain les élus d'En Marche. L'un d'eux, Éric Botorel, était tout à l'heure l'invité de France Info.
Ce n'est pas une séquence tout à fait inédite. Il est fort utile de faire des remontées de terrain et en même temps, évidemment, d'échanger avec l'exécutif et avec le président de la République. Je n'aborde pas le sujet de l'immigration avec pudeur ou avec tabou. C'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui éveille bien les passions parfois. Et puis, quand on connaît les associations qui travaillent aux côtés d'un certain nombre de réfugiés ou de migrants, on peut comprendre le soif d'humanité qui habite certains. Et le sujet européen est extrêmement important. Je crois qu'il faut définitivement réformer le droit de Dublin et des Dublinais.
Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. On sait que dans cette majorité, tout le monde n'est pas sur la ligne d'Éric Botorel. Vous, quand vous discutez avec des élus, des députés d'En Marche, vous sentez cette ligne de fracture sur la question migratoire ?
Ce qui est clair, c'est que la question migratoire est aujourd'hui, comme ça a été dit, la solution de Dublin n'est pas tenable aujourd'hui. On a vraiment une problématique très claire. Donc, je rappelle que Dublin, c'est qu'on renvoie les migrants dans le pays où ça a été, où ils sont arrivés. Et clairement, il y a une fracture peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une politique. Enfin, on sait que les députés En Marche n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour se faire entendre aujourd'hui aussi. Et j'espère que ceux qui sont réticents à une politique migratoire extrêmement sévère comme elle a lieu aujourd'hui avec une crise humanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, seront se faire entendre au sein d'En Marche.
François Hernenwein, rédacteur en chef de La Croix, lorsqu'il va voir demain les députés d'En Marche, Emmanuel Macron, l'objectif c'est aussi de faire taire les dissonances éventuelles pour le 30 septembre lorsque le débat aura lieu à l'Assemblée.
La question des dissonances, elle se résout quand on a une position claire. Moi, je suis incapable de dire quelle est exactement la position du président de la République sur la question migratoire.
Avant l'été, la question des quotas avait été évoquée. Hein.
On voit dans ses engagements européens, je l'ai dit tout à l'heure, une forme de courage face aux va-t-en-guerre sur les questions migratoires comme l'était Salvini, etc. Là, il a été courageux, il a posé des questions au Conseil européen qui étaient pertinentes parce qu'il défend cette idée que les solutions seront européennes ou il n'y en aura pas. Maintenant que pour des raisons électorales, il cherche aussi à afficher une certaine fermeté sur cette question, je l'excuse pas, mais je le comprends.
Arnaud Stéphan, juste avant l'été, le ministre de l'Intérieur a évoqué cette question des quotas. Ce serait un tabou qui sauterait dans la majorité que d'établir des quotas d'immigration.
Oui, mais vous savez qu'on est dans un système politique qui prend beaucoup et souvent mal au système anglo-saxon et on aime bien récupérer de vieilles idées pour essayer d'en faire de nouvelles solutions. Je pense que l'idée des quotas est une des idées qui a été mise en place parce qu'elle serait plus facile pour expliquer qu'on durcit en vérité. Parce que si vous dites j'ai besoin que d'ingénieurs en physique quantique, c'est sûr que vous allez réduire considérablement l'afflux de gens qui ne le sont pas. Mais moi, je remarque aussi quelque chose, c'est que aujourd'hui, on parle d'immigration et d'ailleurs l'utilisation est faite par le gouvernement. Mais maintenant, en Europe, on parle de mode de vie. Je remarque aussi qu'il y a aussi un glissement sémantique vers la liaison entre l'immigration et le mode de vie. Et puis une dernière chose, si vous me permettez,
c'est dans le portefeuille du commissaire européen.
Exactement, c'est le nom du portefeuille du commissaire européen. Et si vous me permettez juste une chose, c'était très facile pour le président de la République tant que justement il y avait Salvini. De dire c'est pas bien ce que vous faites, il faut pas laisser les migrants dans cette situation là etc. Mais ça c'était confortable parce que vous aviez Salvini qui faisait quelque chose même si vous n'étiez pas d'accord. Maintenant que Salvini n'est plus là, ça a recommencé. C'est-à-dire que de nouveau, il y a des débarquements à Lampedusa et que nous allons nous retrouver, nous aussi, dans une situation un peu plus embêtante et qu'il va falloir que le président de la République assume l'arrivée à Menton et l'arrivée par l'Italie.
David Boëry, France Télévisions, que peut-il dire demain Emmanuel Macron pour rassurer ses troupes?
Ah oh bah ça je sais pas parce que je n'y serai pas hein, je suis pas député. Non mais on le disait tout à l'heure que c'était sans doute pour avoir moins de dissonance au niveau de la majorité. Alors parce qu'on a parlé du débat mais enfin rappelons
vous
juste
faut mettre de la rationalité,
rappelons juste qu'il y aura pas de vote hein. Donc je veux dire des dissonances au final il peut quand même y en avoir. Après, c'est de peut-être dans la façon de l'exprimer.
Ça
ne
peut pas
l'exprimer.
Refaire la défiance de nationalité sous François Hollande. Vous savez, on avait eu des semaines de malaise dans la majorité.
Ça, je crois que François Hollande, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, n'a pas fini de se mordre les doigts d'avoir eu cette intuition tordue de la déchéance de la nationalité qui était caricaturale de ce qu'il ne fallait pas faire.
Et puis qui était un geste pour récupérer la droite à l'époque.
Non, mais le président de la République doit entendre deux choses, et à mon avis, c'est ce que les députés lui diront, certaines formes d'inquiétude dans l'électorat, et puis les gens qui attirent l'attention sur la situation des migrants en Méditerranée. Il y a eu un très bel appel qui a été lancé il y a quelques semaines dans une commune de France à Vézelay. La commune de Vézelay, les gens de Vézelay avaient accueilli une famille migrant et les choses s'étaient très bien passées. Ils ont lancé un appel. L'appel en soi n'était pas révolutionnaire. Il portait l'attention à la cause aux migrants, mais ils ont dit aussi une chose qui était très intelligente. Ils ont invité l'ensemble des communes d'Europe à accueillir un couple de migrants, deux ou trois migrants, de participer à cet effort. Puisque de toute façon, la pression migratoire existe. Il faudra bien que sur les territoires des différentes nations européennes, on imagine des solutions de préférence généreuses pour gérer cette question-là.
Moi, je m'interroge quand même sur le timing d'Emmanuel Macron, hein, puisque vous rappeliez sur le débat sur la déchéance de nationalité sous Hollande. C'est à chaque fois, le président Sarkozy avait fait la même chose avec le grand débat, hein. C'est à chaque fois quand on est en difficulté sur sa politique économique et sociale, on est vraiment suite à une séquence un petit peu catastrophique après les Gilets jaunes, après le fait qu'aujourd'hui, en termes de politique économique, on est juste la suppression de l'ISF et qu'aujourd'hui, on entame ensuite un nouveau cycle de réformes extrêmement libérales, en particulier la réforme des retraites qui va ça. Et là, on sort un petit peu comme de son chapeau la question migratoire pour la mettre en avant dans le débat, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire autre que cette question migratoire qui va nous occuper encore pendant des mois et des mois et faire le jeu à nouveau de l'extrême droite.
Sauf qu'il me semble que la question de la déchéance de nationalité est surtout arrivée sous François Hollande après un attentat, beaucoup plus qu'après une question économique.
Oui, alors je pensais plutôt au débat de Sarkozy
et que dans ce débat-là, il était en difficulté de tendre la main à la droite pour l'unité nationale suite à un attentat. Donc c'est pas exactement le même contexte.
Moi, je ne pense pas que le président de la République qui fait de la politique soit habité par une telle préoccupation machiavélique.
Bah, la réforme des retraites, ça va mettre du monde dans la rue.
Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais c'est le lien entre les deux. Je pense que Emmanuel Macron, sur cette question-là, est profondément hésitant. Je ne l'ai jamais entendu exprimer une position claire et transparente sur la question des migrations. Donc je pense qu'il cherche un niveau de discours acceptable pour les gens qui sont soucieux de solidarité et en même temps efficace face... on le concèdera facilement dans les demandes d'asile venues de certaines nations qui sont sûres. Il y a des abus certains.
Et Emmanuel Macron qui précisera peut-être ses pensées et sortira de l'ambivalence qu'évoque François Hernenwein demain devant les parlementaires. 20h50 sur France Info. Le rappel de l'information avec vous, Léo Téchère.
Le secrétaire général de la CGT veut être reçu à l'Élysée. Philippe Martinez le révélait sur France Info vendredi. Il n'a pas eu de tête-à-tête avec Emmanuel Macron depuis 2 ans. Il a pourtant des idées, redit-il donc aujourd'hui, pour la réforme des retraites. Eux vont pouvoir rencontrer le président demain. Tous les parlementaires de la majorité invités pour lancer l'acte 2 du gouvernement, du quinquennat, avec donc tous les membres du gouvernement. Et c'est donc une information France Info. Emmanuel Macron sera lui aussi présent au ministère. parlementaire chargée des relations avec le Parlement. En Israël, à deux jours des élections législatives, le gouvernement légalise une colonie sauvage en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou donne un nouveau coup de barre à droite. L'Organisation de coopération islamique rejette son plan d'annexion d'une partie de la Palestine. 82 migrants débarqués la nuit dernière en Italie. L'Ocean Viking se prépare désormais à retourner en mer. Le bateau d'SOS Méditerranée repart en mission de sauvetage au large de la Libye. Et puis Monaco reçoit Marseille dans moins de 10 minutes. Dernier match de la cinquième journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h. Cet après-midi, Saint-Étienne et Toulouse ont fait match nul de partout. Nantes a battu Reims 1-0.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Et c'est le sondage choc du JDD par IFOP Fiducial. Aujourd'hui, donc dans le journal du dimanche, la mairie de Paris, 24% pour Anne Hidalgo, à en croire l'institut de sondage, 17% pour Benjamin Griveaux, Cédric Villani, 15%, qui talonne donc le candidat d'En Marche, Dati, 14%, David Belliard, candidat des Verts, à 13%. Je vais me retourner vers François Hernenwein qui, je vois, a le même sondage sous les yeux que moi. Quels enseignements vous en tirez? Est-ce que Anne Hidalgo est indéboulonnable ou est-ce qu'elle profite de la division?
Je voudrais rappeler une chose, on est à 6 mois du scrutin.
C'est loin.
Ce n'est qu'un sondage, donc ça fixe à peu près ce qu'est le rapport de force avec des marges d'erreur au moment où on parle. Mais je trouve ce sondage très intéressant. Le Hidalgo bashing a développé ses effets pendant des années maintenant à Paris. Enfin, c'était l'horreur, la gestion municipale, il n'y avait rien à sauver. Et on se rend compte que, pour les personnes interrogées, c'est pas si simple. Elle a un bilan qui est opposable face à la démagogie d'un certain nombre d'attaques. Et je pense que la manière dont La République En Marche est entrée dans la campagne municipale, dont son principal candidat, puisqu'elle en a maintenant potentiellement deux, était une manière assez désagréable de poser des questions à la maire de Paris.
David Bouhanni.
Non mais enfin, si on re-regarde les chiffres, c'est pas vraiment entre guillemets la victoire d'Anne Hidalgo qui est surprenante. C'est surtout de voir qu'en fait, si on ajoute les deux candidats de La République En Marche, on voit que La République En Marche est très largement devant à Paris. Oui. Et que donc c'est un vrai rendez-vous raté pour cette majorité de ne pas être arrivé à se mettre d'accord sur une candidature et donc d'avoir mis en place un procédé de désignation qui a ensuite été très rapidement remis en cause et de ne pas avoir calculé que l'outsider n'avait aucune intention de se laisser faire. Donc voilà.
C'est
donc
facile d'obtenir un bon score comme ça avec des offres aussi contrastées. Benjamin Griveaux, technocrate, et Cédric Villani, rêveur, mathématicien, etc. Oui. Donc comme ça, on ratisse large. Mais il faudra bien, à un moment donné, les voix de La République En Marche se portent...
Sauf que si on regarde Paris, la carte électorale de Paris, aux dernières présidentielles comme aux dernières législatives, La République En Marche était devant très largement à Paris intramuros.
Et David Bouhanni, je vois à vos côtés Arnaud Stéphane qui dodeline de la tête. Hein, je pense
qui dit non.
Il n'est pas d'accord.
Non, ce qui me dérange, c'est que...
Vous inspire pas la même chose, ce sondage.
Non, c'est pas ça, c'est que je me méfie toujours de l'arithmétique pure en politique.
Le 17 et 15, oui.
Le 17 et 15, ça peut faire 28. C'est curieux, mais en politique, ça peut être comme ça. Oui. Et je pense que si...
Mais enfin, c'est plus que 24.
Ça peut être plus que 24.
Si on s'en prend dans les calculs.
Non, mais l'arithmétique en politique, on peut pas réfléchir à l'électorat constant et on peut pas réfléchir avec des arithmétiques en disant si je mets bidule avec machin, ça va faire un résultat tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la présence du candidat vert à 13%. Les Verts ont marché pendant très longtemps main dans la main avec la maire de Paris.
Oui, je pense qu'il est président municipal, c'était la même chose. Hein. Au premier tour, il y avait un candidat vert qui a rejoint Hidalgo.
Oui, et après, ils se sont très bien entendus. Mais ce qui veut dire aussi que...
La réserve de voix est
là, exactement. Et puis, évidemment, l'autre leçon, c'est le score absolument catastrophique des Républicains. 14% à Paris, quand on se souvient ce qu'était la droite à Paris pendant plus de 30 ans.
Oui, mais entre-temps, la sociologie parisienne
a changé. Mais si on parle de l'électorat de droite, on l'a bien vu aux européennes, les quartiers sociologiquement marqués très à droite ont largement voté.
Le parti de l'ordre a voté pour le pour, a voté parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu peur et que leur fils pouvait plus aller faire leurs courses avenue Victor Hugo à Paris dans le 16e pour ceux qui connaissent.
Ils ont voté pour la République en marche très largement.
C'est limpide. Moi j'aimerais juste revenir justement sur cette zizanie au niveau de l'investiture. Moi j'ai été assez interpellée sur la façon dont ça s'est passé parce que en 2017 on nous avait vendu En Marche comme étant un parti qui avait des pratiques politiques très novatrices et les pratiques politique novatrice. En plus, ça pourrait profiter à avoir plus de femmes dans la politique, donc transparence dans les investitures, etc. Et là, par exemple, il y a eu Benjamin Griveaux qui est parti en campagne avec Marlène Schiappa, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, avant l'investiture officielle d'En Marche. Donc en termes de démocratie et de transparence de l'investiture, on en est loin. Et puis après, M. Villani, je vous rappelle qu'il était quand même dans le comité de soutien de Mme Hidalgo dans les dernières municipales. Il est élu député OPS et donc on est dans le cadre d'un nouveau parachutage. Donc entre parachutage et procédure d'investiture un petit peu en mode cafouillage, on est vraiment loin des nouvelles pratiques qui nous avaient été...
Élu député au PS, Cédric Villani.
Pardon, élu député en Essonne.
Excusez-moi, j'ai en soutien d'Anne Hidalgo.
Il était ancien en soutien, il était dans le comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014, et il est élu en Essonne, excusez-moi, ma langue a fourché, élu en Essonne, et donc non pas à Paris comme député, et donc il est parachuté à Paris.
Comme Nathalie Kosciusko-Morizet quand elle s'était présentée.
Exactement, mais simplement la marque d'En Marche, c'était d'avoir d'autres types de pratiques politiques pour faire émerger des nouvelles têtes qui soient implantées localement, par exemple, et qui soient effectivement une nouvelle façon de faire de la politique. C'était en tout cas la promesse pour 2017 quand les investitures avaient été faites.
20h57 minutes sur France Info. Merci à vous tous. On n'a pas eu le temps d'évoquer Jean-Luc Mélenchon et Nicole Belloubet sera pour une prochaine fois. Merci Céline Pic, porte-parole d'Oser le Féminisme, François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix, Arnaud Stéphan, communicant, ancien conseiller, c'était à longtemps, hein, de Marion Maréchal Le Pen, et David Bouhery de France Télévisions. Demain à cette même heure, Jean-François Aquilib.